RCF.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Martine Lombard, auteure allemande et strasbourgeoise, ainsi que d'Arnaud Velasquez, qui représente la librairie Quai des Brumes aujourd'hui. Dans quelques instants, nous allons parler de littérature et de livres.
Polychrome pour dépasser les frontières. Caroline Bacchi, des Jeunes Européens, RCF Alsace.
Bonjour Martine, bonjour Arnaud, comment allez-vous ?
Très bien.
Bonjour, très bien.
Alors Martine, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ?
Je suis née et j'ai grandi à Dresde, qui est jumelée avec Strasbourg d'ailleurs. Il y a une rue de Dresde, il y a aussi une rue Strasbourg à Dresde. Et donc j'ai grandi là-bas, j'ai commencé mes études à Berlin-Est, à l'université Humboldt. Et j'ai quitté la RDA par mariage blanc pour partir à Paris. Voilà, et donc après j'ai repris mes études, j'ai fait en une année une licence d'allemand, un DEUC LEA et du russe, et j'ai intégré l'école des interprètes et des traducteurs à Paris. Voilà. Et après j'ai travaillé à la commission de Bruxelles avant de m'installer à Strasbourg.
Très bien, et vous Arnaud ?
Moi je suis né à Strasbourg et j'ai grandi à Strasbourg. Et j'exerce le métier de libraire, on va dire, depuis 1998, au sein de la librairie Quai des Brumes. Donc, je n'ai pas tellement bougé.
Très bien. Alors, Martine, vous êtes auteure allemande et actuellement, vous êtes strasbourgeoise. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos livres et en particulier Passe-Passe ?
Ça a un peu à voir... en fait, j'ai sorti un roman en allemand, d'abord... Et j'ai publié dans des magazines allemands, des revues littéraires. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a encore plus qu'en France actuellement. Il y a eu une mort des revues, mais je trouve qu'en Allemagne, c'est encore assez vivant, en Autriche, en Suisse. Et donc après, j'ai adhéré... En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser... En fait, j'avais envie de communiquer avec les gens qui écrivent aussi. Donc j'ai adhéré à Littéral. Et avec trois autres membres, on a fondé un petit groupe qu'on appelle le Labo, où on se soumet des thématiques, des problématiques, toutes les six semaines à peu près. J'aime bien l'esprit atelier, j'aime bien ça. Et donc j'étais à chaque fois obligée de traduire ma problématique en français. Et du coup, un jour, je me suis sentie le courage d'écrire un peu en français. Alors qu'à l'école des interprètes, on nous a toujours dit de ne jamais... écrire, traduire vers la langue qui s'appelle la langue B, donc la première langue étrangère. Donc j'ai mis très longtemps avant de me sentir autorisée. Et je crois que c'est un peu grâce à cette compagnie des autres auteurs d'ici que je me suis lancée. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai eu un tas de thématiques est-allemandes qui ont surgi tout d'un coup, que j'avais pas forcément traitées comme ça en allemand. Comme s'il y avait aussi une censure qui avait sauté puisque j'étais ailleurs. En fait, dans un autre, il y avait ni mes parents, ni mes amis, ni la scène littéraire allemande. Donc, ça m'a un peu libérée.
Du coup, vous parlez de plusieurs thématiques par langue. Quelles sont les thématiques qu'on retrouve en Allemagne, si je puis dire, ici, et en France?
C'est peut-être les mêmes thématiques, mais je trouve qu'on peut pas les aborder de la même façon. Ça dépend de ce que les gens savent déjà, de ce qui est convenu, pas convenu, comment on se positionne. Donc, c'est plutôt ça, l'angle, je dirais, qui peut être différent. Ici, c'est peut-être plus l'idée d'apprendre quelque chose, en fait, au sens de communiquer quelque chose qui n'est pas forcément connu. En allemand, ce serait beaucoup plus... En fait, le public, il vous attend peut-être autrement au tournant. Donc, du point de vue thématique, je pense que celles qui m'intéressent, elles sont universelles. Je m'intéresse à tout ce qui est situation de rupture, gain, perte, confiance en soi, confiance artistique en soi ou pas, gagner sa vie, écrire, comment concilier ça, plus la famille. Est-ce qu'on écrase quelqu'un si on s'épanouit? En fait, toutes ces questions un peu féministes m'intéressent beaucoup.
Et quand est-ce que vous avez commencé l'écriture?
Ah, j'ai eu un moment de folie des grandeurs quand j'avais peut-être 10 ans. On a eu un poème romantique à l'école sur le printemps. Et je suis rentrée, je me suis assise, je me suis dit, ça, je pourrais, peut-être que je saurais faire ça. Après, j'ai commencé à apprendre à taper à la machine avec des vieux manuels et j'ai fondé une édition. En fait, j'avais un système. Mon père m'a mis une boîte à lettres sur l'enclos du jardin et ça s'appelait la rédaction. Et j'avais repéré les retraités du quartier et j'écrivais donc des contes et je faisais circuler, je mettais dans les boîtes à lettres avec prière de me rendre les copies pour que ça puisse tourner. Et quand même, au bout de 6 mois, j'étais dépassée, j'arrivais plus à suivre le... Mais les gens jouaient le jeu. De temps en temps, je trouvais un billet de 10 marques dans la... ou une tablette de chocolat, des choses comme ça. Et ça, ça m'avait... Ouais, ça m'a... C'était comme un vrai travail pour moi. Et puis, il y a eu des années où j'ai rien fait et j'ai repris plus tard.
Alors, en 79, vous avez remporté le prix spécial Ville de Dresde. Et par la suite, vous avez été invité en fait à adhérer au club des ouvriers écrivains. Alors, qu'est-ce que c'est ce club ?
Avec le recul, je crois que c'était le système est-allemand ou socialiste où on repérait les talents et on les faisait un peu éclore, on les encadrait. Ça existait pour les maths, pour le sport, pour tout. Sauf que moi, je me suis sentie tout de suite complètement embrigadée. On était déjà chez les jeunes pionniers, dans ceci, cela, etc. Et je me suis dit, ça va être encore quelqu'un qui viendra dire ce qu'il faudra faire, etc. Et donc, j'ai dit à mes parents que je n'irai pas. Et curieusement, ils m'ont pas dit, mais vas-y, au moins une fois. Ça m'a étonnée après coup, parce que je crois que, avec le recul, en fait, j'ai regretté, parce que une fois, peut-être, si on tenait bon 1 ou 2 ans, il y avait l'étape supérieure, le contact avec des bons auteurs ou avec une vraie créativité. Et ça, j'avais, je pense, pas vu, et j'ai un peu regretté après coup, parce qu'il y avait des espèces de retraites, de colonies, de choses comme ça, où on pouvait plonger dans la matière. Et c'était, je pense, avec les années, il y avait moins de politique et plus de matière.
Parce que oui, je le rappelle juste pour nos auditeurs, vous avez résidé en fait dans la RDA, plus précisément. Est-ce que ça a influencé votre écriture ?
Oui, oui. J'aime bien quand les gens ont quelque chose à dire et que ce n'est pas pour l'art. Je crois que je suis quand même un peu formée forgée par l'histoire d'en venir un peu au fait, à l'essentiel. Et je crois que ça a à voir avec ça.
Est-ce que vous avez des artistes en particulier, que ce soit dans l'écriture ou pas, qui vous ont inspiré en fait à...
Artistes, déjà à Dresde, on a tout le baroque, mais ça je trouve que la ville, elle se repose un peu sur ce côté baroque, mais il y a eu aussi tout l'expressionnisme, Otto Dix et d'autres, Die Brücke, donc le pont. Après, il y a beaucoup d'auteurs est-allemands qui sont extrêmement bons et qui restent absolument valables et contemporains. C'est incroyable. Il y en a un aussi qui, en 86, je crois, Uwe Seeger, il s'appelle. Il avait gagné un des prix les plus prestigieux, le Ingeborg Bachmann Preis à Graz, en Autriche, avec une nouvelle. Et ça, il fallait le faire, quoi, être écrivain est-allemand et gagner ça. Et lui, je trouve qu'il a un peu sombré après la chute du mur, alors que très vite, il s'est attaqué aussi au sujet du racisme, de ce côté brutal qui a émergé. Et il y en a d'autres, Christa Wolf, il y a Schlesinger, il y a Fuchs, en fait des gens aussi qui, par exemple, que j'ai vus après au centre, à l'Institut Goethe à Paris. Certains sont décédés, d'autres pas, mais il y a vraiment, il y a dans l'art plastique et la littérature, il y avait vraiment de quoi faire.
Et si à l'époque, vous aviez eu la possibilité de vivre ailleurs en Europe,
je l'aurais fait. Mais oui. Moi, je voulais aller aux États-Unis et au Canada. Et je pense que j'aurais vassé un peu à la France.
Chose que vous avez fait par la suite. Vous avez vécu à Paris, puis à Bruxelles. Donc, c'est deux ambiances différentes. À Paris, vraiment, c'est le monde, quoi. Tandis qu'à Bruxelles, j'imagine que c'est l'Europe. Est-ce que vous avez vécu ces deux expériences ?
Oui, mais pas au sens institutionnel. Parce qu'à Bruxelles, on a quand même... En fait, la vie, elle est un peu ailleurs. Elle est un peu cachée aussi. Il y a plein de quartiers d'art nouveau qui ont été rasés, par exemple, pour les institutions. En même temps, la ville, elle vit grâce à ça, mais je trouve qu'on sent et les traces du colonialisme aussi, avec, par exemple, un réaménagement aussi des musées qui devient très intéressant, mais cette richesse de la ville, elle est aussi, je pense, elle existe grâce à la relation entre la Belgique et certains pays d'anciennes colonies. Mmh. Ça, je l'ai senti, mais aussi un cosmopolitisme, comme si, en fait, le fait que ce soit entre la France et l'Angleterre, ça se sent. Il y a vraiment une tolérance, un laisser-vivre que j'ai vraiment adoré. En fait, moi, j'adore la Belgique. Et Paris, c'est mondial, mais ça peut être provincial aussi, je trouve. On pense tout savoir et je trouve que ça manque de curiosité. C'est étrange, hein. Et ça m'avait frappée quand je suis arrivée. Dans certains cercles, on ne parlait jamais politique, mais que tendance. Et ça me rendait folle. En fait, je me dis, mais pour ça, pour trouver ça, je me suis déplacée pour ça. En fait, par moments, j'avais vraiment cette espèce de rage, oui, de... Et l'art de converser, mais à un niveau qui, moi, me convient pas toujours. En fait, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a un peu de ça pour moi.
Et du coup, est-ce que là, maintenant que vous êtes à Strasbourg, la notion d'Union européenne et de livre et d'écriture, vous la vivez autrement? Vous avez parlé, par exemple, de littéral.
Oui. Mais pour moi, en fait, quand vous dites Union européenne, je vois à nouveau pas d'institution, je vois le fait de pouvoir traverser les frontières. C'est vraiment ça. Et je vois Strasbourg comme faisant partie d'un bassin humaniste qui va jusqu'à Bâle et qui trouve ses échos dans d'autres pays et qui s'en fiche des frontières d'aujourd'hui. Donc, je lis pas ça du tout à l'Union européenne. Je lis ça à un esprit... d'érudition, d'échange, de culture, de... Oui, voilà.
Donc on peut dire que l'écriture dépasse les frontières quelque part.
Bah, je l'espère, oui, 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 j'y crois.
Polychrome pour dépasser les frontières, RCF Alsace.
Alors nous sommes toujours présents avec Martine Lombard et cette fois-ci nous allons parler avec Arnaud Velasquez, donc libraire au Quai des Brumes. Qu'est-ce que représentent les livres pour vous, Arnaud ?
Une bonne partie de ma vie, dans la mesure où je passe pas mal de temps avec eux, en journée à les vendre, à les ranger, beaucoup. Et en soirée, à les lire. Alors, pas tous les soirs, mais quand même très souvent, le soir. Et puis, des fois, le matin, avant d'aller bosser. Et puis, je pense que je suis de nature un peu timide à la base. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est un super vecteur de conversation et de découverte de l'autre à travers les lectures, à travers des échanges. Ouais, je pense que je le vois pas mal comme ça. Moi, j'aime beaucoup, une partie du métier que j'aime bien, c'est celle qui fait rêver, je pense. C'est la partie de conseil, mais qui est paradoxalement pas unidirectionnelle, quoi, en fait. Le conseil se fait aussi en discutant avec les clients. J'ai acheté un nombre incalculable de livres qui m'ont été conseillés par des clients, hein, ou découvert des livres, par des clients, des auteurs, des autrices qu'on a pu recevoir au magasin, à la librairie.
Et en ce moment, qu'est-ce que vous lisez comme livre ?
Alors, moi, je m'occupe principalement du rayon de littérature policière. Après, je lis un petit peu de littérature dite blanche. En France, on aime bien les mettre dans des catégories, les livres. Je lis de temps en temps des essais. Là, aujourd'hui, j'ai terminé ce matin un roman policier d'un Italien qui s'appelle Pier Giorgio Pulizzi. C'est du bon thriller. Et j'ai commencé un autre qui s'appelle Vine Street, dont j'ai mangé le nom de l'auteur, qui est publié chez Rivage.
Très bien.
Dans 10 pages.
Est-ce que vous remarquez des tendances à la librairie
Dans les lectures, il y a une tendance depuis quelques années, mais qui n'est pas que chez nous, qui est un petit peu générale. On voit que la littérature étrangère, de manière large, a un petit peu plus de mal à trouver son public. Je pense qu'il y a eu un règne pendant très longtemps de la littérature anglo-saxonne et américaine. Un peu d'ouverture, et puis que ça redevient un peu compliqué de proposer des littératures autres. Alors on essaye de le faire, mes collègues de la littérature le font, que ça soit des auteurs d'Europe centrale, d'Amérique centrale, ou du Sud, ou du continent africain, ou de d'autres pays, quoi. Mais pour rejoindre ce que disait Madame Lombard tout à l'heure, effectivement, je crois que c'est un petit peu un côté la France est... En caricaturant peut-être un peu, mais elle est un peu provinciale, effectivement. J'aime bien lire des auteurs français, mais pas forcément, ou des autrices, mais pas toujours une grande curiosité vis-à-vis de gens qui peuvent venir de plein d'autres pays, même des fois des francophones, hein, que ce soit des Canadiens, des Québécois, pardon, ou des gens du continent africain. Il y a quand même énormément d'Africains qui font des pays d'Afrique, qui parlent le français.
Effectivement,
oui. Sont pas toujours très bien représentés. Alors après, il y a eu un prix Goncourt il y a quelques années, mais... Mais voilà, il y a des gens comme... Il y avait eu Amadou Kourma, il y a eu... Alors au moment où je cherche les noms, bien sûr, ils me sortent de tête. Mais il y en a d'autres dont le nom, je suis désolé, j'ai un trou.
Et quel est le secret de la librairie qui est des brumes ? À chaque fois, on me recommande votre librairie, et même là, pour cette intervention au sujet des livres, j'ai eu la recommandation, du coup, de votre librairie. Quel est le secret ?
Je sais pas. On prend de la potion magique. Non, je sais pas s'il y a un secret. La librairie, elle va avoir 40 ans cette année. Donc peut-être qu'on fait partie du paysage maintenant, au même titre que d'autres. Je pense qu'on a toujours essayé d'être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est une définition que j'aime bien. Ça veut pas dire ne pas être sérieux et faire les choses par-dessus la jambe, hein, loin de là. Mais je crois qu'aucun dans l'équipe ou aucune n'a envie d'avoir une vision sacralisée de la littérature. Je pense qu'une librairie, ça ne va pas être un lieu qui est fermé. Au contraire, elle doit aller vers et attirer et accueillir tout le monde. Il n'y a pas de mauvais livres, il n'y a pas de bons livres. On n'est pas des sachants, quoi, loin de là. Nous, on propose des choses, on essaye d'orienter. Alors, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Ça me fait plaisir, hein, ce que vous dites, vraiment, sans fausse modestie. Mais je sais pas si on a un secret. Je crois que tous dans l'équipe, on aime vraiment beaucoup ce qu'on fait. On s'amuse bien. C'est ça. Je crois qu'on essaye de s'amuser, de jamais rien s'interdire, que ça soit dans les propositions sur les tables ou dans la vitrine ou dans les rencontres.
Alors, vous avez dit propositions sur les tables. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Par les ouvrages qu'on peut mettre en avant en présentation, tout simplement. Je veux dire, là, je parlais de Pier Giorgio Pulizzi, par exemple, en roman policier. Alors maintenant, c'est quelqu'un qui commence à être un petit peu établi, mais il peut très bien côtoyer des auteurs vraiment très, très connus, on va dire. Et puis, à côté, un illustre inconnu. Moi, je trouve que c'est ce qui est plaisant dans notre métier. Et à nouveau, sans snobisme aucun, hein, mais c'est de... Il est plus valorisant de vendre ou de proposer X fois le... ou 100 fois un exemplaire, enfin un ouvrage, d'en vendre beaucoup et d'en lui trouver beaucoup de lecteurs ou de lectrices, de quelqu'un qui n'est pas forcément très connu, plutôt que de vendre énormément un auteur, quelqu'un déjà installé. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon propos. Mais je crois que c'est ça qui est amusant, c'est de dire, voilà, il y a des auteurs ou des autrices extrêmement connus, mais à côté, il y a tout un milieu qui existe, tout un monde qui est foisonnant, qui est intéressant. Je parlais de la littérature québécoise. Il y a quelques années, il y a une collègue qui a été au Québec dans le cadre d'un échange avec le Québec, qui a rencontré des auteurs, des autrices et des éditeurs ou éditrices québécois. Et du coup, elle a décidé de faire nous a proposé de faire un rayon de littérature québécoise. Et depuis quelques années, ça se développe vraiment. Et c'est marrant, ils sont invités là au Salon du Livre de cette année. C'est le Québec qui est mis en avant. Et de fait, c'est une littérature qui est intéressante, qui propose plein d'autres choses. C'est un parler c'est le français, mais qui est un petit peu différent chez certains. C'est des thématiques qui sont pas forcément les nôtres. Ça reste sur le continent nord-américain. Donc il y a des façons de voir qui sont pas les nôtres, d'habiter les espaces qui sont pas les nôtres. Et ça, voilà, je trouve que c'est ce qui est intéressant et chouette dans ce métier. C'est de pouvoir proposer, on va nous demander quelque chose, c'est pas de proposer autre chose que ce qu'on nous demande, mais pas d'aller vers là où on pourrait être, entre guillemets, attendu.
An der Haltestelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, dass ich nicht mehr ertrage. Ich halt dich nicht fest und lass dich nicht los. Du gibst mir den Rest, die Tasche ist groß. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das.
Polychrome pour dépasser les frontières, RCF Alsace.
Alors, nous sommes toujours présents ici avec Arnaud Velasquez de la librairie Quai des Brumes. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez des subventions de l'Union européenne pour soutenir les librairies? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
Alors, de l'Union européenne, je vais être honnête, je ne sais pas du tout s'il y en a, peut-être, mais j'en ai pas entendu parler. On bénéficie plutôt de subventions en France via le Centre National du Livre ou d'autres organismes. Il y a notamment une subvention qui nous permet de... un label, en fait, c'est le label librairie de référence, pardon. Donc c'est un dossier qu'il faut compléter, à l'issue duquel on peut avoir un prêt, mais une subvention de plusieurs milliers d'euros qui permet d'acquérir du fonds, en fait, tout simplement. Des ouvrages qu'on va pas vendre tous les jours, mais qu'il est bien d'avoir dans le fond. Il y a pas mal d'aides à ce niveau-là qui existent, de cet ordre-là, plutôt.
En parlant de label, bientôt la ville de Strasbourg va être labellisée, du coup, ville mondiale du livre par l'UNESCO. Qu'en pensez-vous, Martine?
Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que tout le monde pense à Gutenberg, déjà. Sauf que c'est pas sûr. En fait, il n'y a pas vraiment la certitude. On ne connaît pas de livre qui aurait été imprimé en premier ici. Donc, je pense que c'est pareil, c'était dans l'air du temps, ça concernait plusieurs villes dans le bassin. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle et initiative. Et j'espère qu'il y aura quelque chose de durable après cette année. Qu'il y aurait, par exemple, moi, j'aime, en fait, c'est peut-être pas le moment de le dire parce que la question, c'était pas exactement ça, mais je trouve que, en fait, mon rêve, ce serait que Strasbourg sache créer un peu un environnement comme à Leipzig, par exemple, où la lecture, elle fait partie de tout le monde. C'est lors du salon du livre de Leipzig, mais les gens, ils lisent partout, ils viennent partout. Jeunes, vieux, des punks, des je sais pas quoi, tout le monde. C'est les cafés, c'est partout. Et par exemple, si ici, il y avait plus de scènes vivantes où on pouvait, par exemple, présenter des textes non aboutis pour en discuter, des choses comme ça. Pour moi, une capitale du livre, ce serait ça. Ce serait moins des choses formalisées qui ont lieu une fois, on fait quelque chose maintenant pour le livre, pour la filière. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un gain à long terme. Et maintenant, si Strasbourg est capitale du livre, j'espère, par exemple, qu'on pensera aussi à la diffusion et à la distribution du livre parce que personne va écrire. En fait, si on veut obtenir un rayonnement un peu plus grand hors Alsace ou hors la région, il faudrait que si quelqu'un veut écrire sur vous, que ce livre que vous avez écrit ne soit pas juste à commander, mais qu'il soit dans les rayons à Paris ou dans une autre ville. Et ça, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que il faudra s'attaquer à la filière elle-même.
Merci beaucoup Martine Lombard et merci beaucoup Arnaud Velasquez. Nous avons parlé de livres en Alsace et en Europe. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup?
Alors pour ma part, c'est au 120 Grand Rue à Strasbourg, dans la librairie.
Et vous Martine?
Chez moi, mes prochaines échéances, ce sera à Karlsruhe des lectures. Et puis aussi, je participerai à Strasbourg Capitale du Livre dans le cadre d'une coopération avec une artiste plasticienne au mois de novembre.
Et pour vous, chers lecteurs, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, ne vous inquiétez pas, cet épisode sera disponible en podcast sur le site RCF Alsace. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'émission et un grand merci du coup à Théo Gurdoni qui est à la réalisation. Nous nous retrouvons bientôt et puis merci à vous, à tout vite.
Merci.
Merci.